tentules, vol noir des copeaux sur nos plaines. Amis, au tentule, cri sourd des pays qu'on enchaîne. Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle ou au couteau, tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il vaut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur la route. Sifflez champignons dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Bonsoir et bienvenue sur Antifada, l'émission d'idées autonomes. Et voici que nous revoilà en ce premier mercredi du mois, jour de la sirène d'alarme, que nous tirons en ces temps de vacarme assourdissant. Sous la pluie des grenades de désencerclement, les injures à tour de bras armés du gouvernement, conjoncture de Rage Against the Machine, ainsi que les guerres coloniales qui perdurent et qui déciment toujours autant d'innocents en ce moment. Écoute les colères, les mépris et les misères qui nous cisaillent. Ici, vaille que vaille, on se fait le relais des récits, des trouvailles, de médias indés, de gens déter qui ne sont pas prêts à se ranger et qui, fiers, ne lâchent rien de leurs efforts pour continuer à lutter. Force et soutien à toutes les personnes opprimées, avis de résistance pour faire face à l'ignorance. On a choisi de relayer les infos de notre réalité. Encore une fois, bienvenue à toi sur Antifada. Ouais, bonsoir. Bonsoir les gars.
Ouais, salut.
Bonsoir, vous allez bien?
Bonsoir.
Ouais, ça va super bien.
Ouais, on est de retour. C'est Antifada. Bienvenue à nous, bienvenue à toi qui nous écoutes, enfin j'espère.
Heureux de vous retrouver les copains, heureux de vous retrouver aussi les auditeurs. Hein.
Carrément.
On est là.
Carrément. Et on a plein de choses à vous dire. On a plein de trucs à débattre et on a plein de petites capsules plutôt intéressantes. Hein. On va partir sur une grande ligne droite sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il y a eu pas mal de montages de faits là. On va s'en écouter hein, tout de suite un premier.
Des vidéos révélées par nos confrères de Libération et de Mediapart mettent aujourd'hui en cause les forces de l'ordre avec des propos très crus.
J'ai cru que le mec allait jamais se relever.
Ah ouais, mais il a pris ça.
Il a dû la prendre pleine gueule.
Plus grave, on voit des gendarmes se réjouir des blessures qu'ils viennent de provoquer.
Et si je le charge, je le tue.
T'en crèves 2-3, ça calme.
Ouais. Écoute, je peux plus les prendre.
Ces vidéos ont été tournées par les caméras embarquées que certains gendarmes portaient sur eux ce jour-là. Voilà comment doivent être tirées les grenades lacrymogènes pour être moins dangereuses en cloche. Mais sur ces nouvelles images, les consignes sont claires. Des tirs tendus. Des tirs qui visent directement les manifestants au risque de blesser gravement. Cet homme, qui souhaite garder l'anonymat, était sur place parmi les protestataires.
Moi, j'étais au cœur des gens par là-bas, quoi.
Gravement blessé au pied, il est opéré et frôle l'amputation.
Je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes, quoi.
Tu crois que le mec n'allait jamais se relever ? Il insulte les manifestants.
Juste à écouter ce qu'ils disent. Voilà, et c'est des gens qui sont censés protéger la population.
Pour son avocate, ces violences mettent en cause la hiérarchie.
Ce que cette vidéo permet de montrer, à mon sens, c'est vraiment que c'était une situation généralisée et qu'il y a eu de nombreux tirs illégaux et qu'il y a eu plein d'instructions aussi pour ces tirs illégaux.
À l'époque, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Bonjour. Il rappelle que les gendarmes ont fait face à des manifestants très agressifs.
Moi, je veux redire ici, de mes fonctions passées, le soutien que j'ai face aux gendarmes qui ont, de manière générale, et peut-être pas dans les cas particuliers que vous citez, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu les vidéos et les sons que vous évoquez, mais je le ferai, bien évidemment.
Son successeur a ouvert une enquête administrative pour faire la lumière sur les agissements des forces de l'ordre à Sainte-Soline.
Voilà, voilà.
Grave.
La première capsule qui nous met tout de suite dans le bain des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est quoi, c'est
2023.
2023, pardon.
2023,
je voulais dire ça.
Donc il y a 2 ans.
Ouais, il y a 2 ans, donc c'est pas si loin. Et puis ces images qui sont sorties grâce à Mediapart et Libération. Voilà, hein. On rentre dans ce sujet. Du coup, on a tous préparé des petits montages là-dessus, sur cette triste événement. Parce que franchement, on pouvait être content qu'il y ait des gens qui défendent l'eau et qui défendent les choses contre ces bassines. Là, faut dire que, tu vois, c'est quand même l'État et son bras armé qui a fait la guerre à des gens qui voulaient accéder à un trou, quand même, parce qu'il n'y avait même pas de flotte encore là-dedans, quoi, tu vois. Et du coup, pour défendre un trou, ils ont mis le paquet et on a plein de petits montages là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? On enchaîne direct, non ?
Ouais, on peut aussi dire que... On peut aussi dire que ces images-là, elles sont sorties maintenant, mais elles sont dans les tuyaux de l'IGPN et de tous les contrôleurs
depuis longtemps.
Depuis longtemps, en vrai, depuis le début, hein, et que tout ça nous a été caché. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut remercier Libération et Mediapart ? Mais en tout cas, merci du boulot journalistique et de s'être démerdé. C'est tout. Toutes ces vidéos et tous ces sons qui démontrent bien que tout ce qu'on dit depuis, que maintenant Internet existe et qu'on peut avoir l'accès aux caméras, que c'est ça qui se passe dans les manifestations.
Ouais,
et que cette violence-là, elle est systémique. Alors il y a des gens qui nous diront « ouais, ils sont pas tous pareils ». Moi, je suis désolé, quand on se tape 3 heures de vidéos de ça, hein, sur un seul événement, moi en vrai...
Ouais, c'est terrible.
c'est systémique et c'est le bras armé, comme tu disais.
Bah ouais, on peut se douter en fait de ce qui se passe dans les têtes des flics quand ils sont là à défoncer les gens qui manifestent. Là, c'est juste, on l'a devant nos yeux, on l'écoute de leur vive voix, en fait, à quel point ils ont la haine.
Ça devient des ennemis.
C'est juste des chiens énervés contre les gens qui luttent.
Ouais, complètement.
Et en fait, c'est de ça que l'État il se sert pour réprimer les luttes. Quoi.
Exactement. Pour faire peur aux gens, pour
terroriser les gens.
Exactement. Quoi, c'est déjà ce qui s'était mis en place avec les gilets jaunes. Hein, les mains arrachées, les gens éborgnés, tout ça, c'est aussi maintenant aller en manif et être contre ce qui est annoncé par le gouvernement, c'est un acte qui peut être dangereux pour ta propre sécurité, quoi. Tu vois,
non, mais bien sûr.
Sous prétexte que y a des gens dangereux en face, bah on écoutera, il y a tout un tas de choses. On va vous envoyer peut-être une. Tu nous la présentes,
ouais,
hein, la
prochaine. Du coup, voilà. C'est l'entretien de Serge qui était dans les comas pendant un mois et demi parce que il a reçu un tir de LBD tendu direct sur la tête.
Ouais.
Ça lui a littéralement fracassé le crâne.
Ouais.
Et c'est un témoignage vraiment intéressant. C'est un peu long, mais j'ai trouvé. C'est l'intégrale de l'entretien, elle est sur internet, elle dure 20 minutes, là je l'ai coupé, ça dure 6 minutes.
Ouais.
Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il raconte aussi sur sa vision de c'est quoi la répression, c'est quoi le rôle de la répression, justement ce qu'on est en train de dire.
Exactement.
Et voilà, on le laisse parler, ça dit
carrément. Bien sûr, ça. Allez, on s'écoute ça.
Je récuse le terme de violence policière.
Il n'y a pas véritablement de problème de violence policière.
Je tiens à le dire, il n'y a pas de violence policière en France.
Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Yeah.
J'ai le souvenir de quelque chose qui explose derrière moi avant le deuxième impact, mais... Pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais reçu un coup de matraque télescopique qui m'avait enfoncé le crâne. Parce que j'ai le souvenir d'un choc crânien très important. Bon, a priori, le tir qui m'a visé, bon, tout est pas encore clair, évidemment, mais bon, c'est des projectiles qui sont censés tirer en l'air et pas en tir tendu. Pas du tout la même force d'impact. Le choc m'a détruit une partie de ma boîte crânienne, donc à l'heure actuelle, je ne suis pas protégé intégralement par mon crâne, donc je mets un casque en attendant d'avoir une prothèse. Voilà. Je suis resté dans la terre, c'est pour ça que j'ai eu une infection à ma plaie hein, quand je suis arrivé à l'hôpital, et que j'étais dans les gaz lacrymogènes, donc j'ai eu une infection aussi au poumon, et il y a eu un énorme délai de prise en charge. Je suis resté dans le coma un mois et demi. Donc, il m'avait plongé dans le coma dès la prise en charge par les secours à Sainte-Soline. Et c'est quand ils ont arrêté le traitement que j'ai fini par me réveiller. Il n'y a aucun bilan définitif de mes séquelles. Après, je sais qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Enfin, on m'a déjà détruit une oreille et ça, je sais qu'elle ne reviendra pas. Elle est morte. C'est un acte délibéré pour le coup d'accentuer les séquelles qu'ils savent très bien qu'ils ont menées en tirant au hasard sur une foule. Hein. Alors qu'ils ont envoyé un nombre incalculable de projectiles qui peuvent avoir blessé des gens, et que d'une certaine manière, je pense qu'ils espéraient même avoir blessé des gens et que ça servait à quelque chose ce qu'ils avaient jeté.
Elle dit avoir consommé 5015 grenades lacrymogènes, dont 1375 GM2L qui contiennent une charge explosive, 89 grenades de désencerclement GENL, 40 grenades assourdissantes et 81 munitions de LBD-40.
Donc après, derrière, oui, je pense qu'ils savent les conséquences de ce que c'est que bloquer l'arrivée des secours. Je pense que tout un chacun sait dans cette société que bloquer des secours face à une urgence, ça fait avoir des conséquences très graves.
Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions.
Effectivement, le pouvoir a donné carte blanche à la police sur la science Sainte-Soline d'y aller de manière beaucoup plus forte que d'ordinaire. Mais c'est une consigne politique qui a pour moi un sens, dans le sens où enfin, la répression judiciaire, elle existe depuis que les luttes existent, on va dire. Mais la volonté claire de donner le droit d'exercer une répression physique, donc avec, je ne suis pas le premier blessé, et à mon avis, malheureusement, je ne serai pas le dernier, ça vise à un objectif qui est beaucoup plus large, je pense, qui est de, comment dire, de réprimer à la fois les gens qui sont là en train de lutter, donc comme moi dans ce cas-là, mais plus largement d'envoyer un message à tous ceux qui pourraient rejoindre cette lutte, qui est « n'y allez pas, c'est dangereux ». Donc c'est pas pour rien qu'on a eu autant une répression physique aussi importante, par exemple pendant les gilets jaunes, les centaines de mutilés, hein, les images de mains arrachées, d'œil crevé, etc.
Et si je le chope, je le tue, quoi.
T'en crèves deux, trois, ça calme.
Ouais. Quand l'État et le pouvoir, il a peur que la lutte coagule et soit rejoint par toute une partie de la population, ça lui permet d'écarter. Il faut imaginer, hein, c'est des parents qui disent à leurs enfants qu'ils veulent pas qu'ils aillent en manifestation parce que c'est dangereux, etc. Et c'est en partie compréhensible au vu des images qui circulent. Mais voilà, la répression physique, c'est quelque chose dont se sert, à mon avis, aussi bien les dictatures les plus féroces que certaines démocraties, parce que ça leur permet d'éviter que la lutte s'étende et soit rejointe. Moi, je me réveille, quelques semaines après, on voit tous un policier tirer sur Naël et le tuer dans sa voiture. Je veux dire, à un moment donné, évidemment, ils n'ont aucune peur des conséquences, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, quand je dis ils ont l'État à donner carte blanche à la police à Sainte-Soline, je pense que c'est réel. Moi, d'une certaine manière, le policier qui a tiré, c'est pas que j'ai rien contre lui, hein, je le déteste, évidemment, mais, je veux dire, il a aussi des ordres qui viennent bien au-dessus. La carte blanche donnée sur le fait de tirer un peu au hasard comme ça, et une telle quantité de fois, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est pas juste un fait individuel annexe, quoi, je veux dire. J'espère aucunement que mon cas, comme celui de tous les blessés, viendra paralyser des gens dans leur combat. Parce qu'au final, bah, si on cède à la peur, c'est le début de la fin, quoi. C'est là qu'on leur donne les mains libres pour continuer à faire toutes les choses scandaleuses qui se passent actuellement. En tout cas, le pouvoir le sait bien qu'on a cette force-là. Et c'est pas pour rien qu'il a besoin d'une répression accrue. C'est qu'il sait qu'en face, il y a une possibilité, et les gilets jaunes sont venus le rappeler d'une manière fracassante, quoi. Qu'à un moment donné, une lutte, quand elle finit par être comprise par une grande partie de la population comme pas la lutte de quelques-uns, mais la lutte de tout le monde, et que c'est un intérêt pour tout le monde de lutter, on est des millions, quoi. Et ça, ils en ont peur. Les élections, ça ne fait qu'une alternance politique, mais fondamentalement, c'est au pouvoir, ils répondent toujours aux mêmes intérêts. C'est pas eux qui détiennent réellement le pouvoir. Du coup, je ne crois absolument pas à la perspective du dialogue avec ces gens-là. Ils entendent uniquement quand ils ont face à eux quelque chose qui vient les contrarier. Et comme je disais, bah, c'est notre force, c'est que nous, quand on se met en lutte, on est capable d'arrêter en quelque sorte ce système, vu que c'est nous qui le faisons tourner au quotidien. Je pense qu'il n'y a qu'un changement radical de la société qui permettait de résoudre à la fois les problèmes écologiques et les problèmes sociaux.
Ouais, voilà, ben, quoi dire, à part donner une réponse.
Eh ben, ouais, il nous paraissait aussi important de, bah, de faire ce petit montage-là. Merci ouais. À toi, mon poteau. Et surtout de lire leur communiqué qui est sorti le 5 novembre. Donc, les quatre blessés graves de Sainte-Soline sont Michael, Serge, Alix et Olivier. Et des proches. Donc, moi, je vais vous lire le communiqué qu'ils ont écrit, quoi. Donc, il commence comme ça. Il importe de faire la lumière sur les violences policières à Sainte-Soline et ailleurs. Le 25 mars 2023, lors d'une manifestation à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre les méga-bassines, les forces de l'ordre ont blessé plus de 200 personnes, dont nous quatre gravement. Une plainte a été déposée par nous ou par des proches de nous, notamment pour tentative de meurtre et pour entrave à l'arrivée des secours. Les experts que le procureur de la République a chargé d'enquêter sur les violences policières ont mis 2 ans à rendre leurs conclusions, qui sont à la fois partiales et lacunaires. Selon eux, les forces de l'ordre auraient seulement répondu à la violence de certains manifestants. En fait, comme l'ont démontré forces, témoignages, images et enquêtes journalistiques, les 3200 policiers défendant un trou de terre vide ont bombardé de 5000 grenades, sans sommation, l'ensemble des manifestants. Toujours selon ces experts, l'organisation des secours n'aurait pas entraîné une perte de chance pour les victimes, parce qu'elles ont été soignées sur place de façon consciencieuse et irréprochable. En fait, ce n'est pas la qualité de ces soins qui a été dénoncée, c'est l'interdiction faite aux ambulanciers d'accéder aux personnes blessées, même quand il y a eu un retour au calme. Interdiction que, là encore, divers témoignages confirment. L'enquête indique que les soignants n'étaient pas autorisés à arriver seuls sur les lieux et que les tirs non réglementaires ont été opérés par les forces de l'ordre. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent dans ces conclusions, en particulier concernant les ordres explicites d'effectuer ces tirs non réglementaires. Quoique figurant dans le dossier, ils n'ont pas été traités. Enfin, si des dysfonctionnements inexplicables sont relevés dans l'organisation des secours, le PC pompier ne répondait pas aux appels à l'aide. Des motards de la police ont tardé à venir escorter les ambulances et les ont abandonnés en chemin. Aucun avis n'est émis dessus. La manière dont a été conduite cette enquête laisse clairement apparaître l'intention de classer sans suite nos plaintes. Aussi demandons-nous la poursuite des investigations. Loin d'être un événement ponctuel, le 25 mars 2023 à Sainte-Soline s'inscrit dans un processus visant depuis de nombreuses années à banaliser une répression toujours plus violente. L'objectif de l'État ce jour-là n'était pas d'empêcher les manifestants de parvenir sur le chantier de la méga-bassine, mais de dissuader quiconque de manifester à nouveau contre de telles constructions, lesquelles ont depuis été jugées inutiles et illégales par les autorités compétentes. La mobilisation anti-bassine de Sainte-Soline a ainsi été pour l'État une occasion d'appliquer sa doctrine du maintien de l'ordre, qui implique d'assimiler les mobilisations sociales à des attentats terroristes afin de déclencher officieusement un plan ORSEC, permettant leur répression par de véritables moyens militaires. Mais ne prévoyons pas les moyens sanitaires à la hauteur de cette répression. Le terrorisme, c'est ça, rendre une population passive face aux agissements d'un pouvoir devenu omnipotent. Nous avons aujourd'hui les preuves audio et vidéo de tout ce que nous doutions, de tout ce que nous doutions. Les actes qui ont causé tant de blessures, a fait frôler la mort à nombre d'entre nous, ne sont pas l'œuvre d'individus particulièrement violents, mais découlent de l'ordre donné par une institution. Et des actes semblables ont blessé et tué dans d'autres contextes, mouvement des Gilets jaunes ou contre la réforme des retraites, émeute après la mort de Naël. Alors nous voulons faire peser sur cette institution le cadre juridique dont elle s'affranchit délibérément. Apporter un éclairage sur ce dossier ne suffira évidemment pas à le clôturer, mais cela nous aidera à trouver des réponses dont nous avons besoin et à affirmer un refus de se laisser tétaniser par la terreur. Nous n'en continuerons pas moins de mener d'autres batailles pour une réelle justice sociale et environnementale. Donc voilà, ça c'est leurs mots. En vrai, on doit les respecter, hein, parce qu'on écoutera là dans les petites capsules sonores qu'à l'époque, quand en 2023, ces gens ont dénoncé ces tirs de LBD non réglementaires,
ouais, ben, ça a été tendu.
Ouais, exactement, ça a été décrédibilisé par tout le monde et la lutte est décrédibilisée. À partir du moment où on dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais. Si ça s'est passé comme ça, maintenant on en a la preuve. Donc franchement, quand on entend Nunez là, il n'y a pas très longtemps dire non, mais on laisse en enquête comment se faire, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça parce que c'est même pour nous. Hein, on se l'est dit tous les trois en regardant ces images, elles sont horribles.
Quand on regarde ça,
on se dit mais en vrai tout est filmé et eux, l'IGPN et toute leur société de contrôle étaient au courant de tout ça.
Mais bien sûr.
Encore aujourd'hui, on dit que non. Non, c'est pas possible, ça s'est pas passé comme ça, on craignait que... Donc voilà.
En même temps, on se demande, en fait, l'information elle est là, les images elles sont là, les évidences que la police elle tue en fait tous les mois, et même plus en fait.
Il y a plein de gens
qui ont été tués par la police dans les dernières années. Je me souviens de ces livreurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Paris, une petite interpellation dans la route avec les flics. Ils le mettent par terre, ils lui mettent un coup de taser, ils l'ont buté. Et Théo qui a été violé par la police dans la banlieue parisienne. L'autre qui rentrait chez lui, ils l'ont suivi dans la cage d'escalier, ils lui ont défoncé la gueule. Ah. le scandale en fait
à l'américaine quoi.
Mais ça, mais en fait tout le monde est au courant et pourtant ça continue, il y a rien qui change.
Complètement.
On se demande qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent vraiment.
Et aussi il faut pas oublier que déjà Rémi Fraisse est mort en 2014 hein. Lui ouais. Il était dans une cause environnementale, ça s'est passé dans la nuit du 25 bah, au 26.
C'était les mêmes causes hein.
Ouais, c'était exactement
ouais, ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Donc en vrai ça fait beaucoup et comment finalement quel moyen nous donne cette démocratie pour être contre cette violence systémique de la police,
quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bon ben bah, les copains après tout ce moment là moi depuis le début je suis plutôt en apnée tu vois avec ouais. cette charge policière justement qu'on subit là c'est un peu lourd. Je vous propose qu'on fasse un petit moment de respiration. Tu avais ouais. sélectionné un morceau de musique, on va se mettre un peu de musique pour se détendre un peu et puis on va replonger dans le vif du sujet
complètement. Bon alors après on reste quand même sur une production la hip-hop. Donc ça c'est un groupe qui s'appelle Medusa Glow qui a sorti un superbe album d'ailleurs, il est sorti juste avant notre première émission.
Exactement,
là
ouais.
Il était sorti au mois de novembre. Mm-hmm. Donc l'album s'appelle À l'écoute hein. Ça c'est un rap qui vient de Brest et de Concarneau. Donc je voulais aussi vous annoncer que là si vous êtes dans ce coin là ils font leur release party le 13-12
et
belle
ouais.
date hein. Ça
belle
c'est
date.
À l'espace Léo Ferré à Brest. Et moi je voulais vous lire une phrase qui est c'est un petit skit là dans l'album qui moi ouais. bah, m'avait plutôt touché en vrai. Donc voilà, je vais vous la lire et ensuite on vous passera le morceau qui s'appelle Westream. Donc voilà, c'est un peu un skit de cet album là qui dit: formellement tous les membres de la société bourgeoise ont les mêmes libertés et les mêmes droits, mais dans les faits la seule liberté des prolétaires est de choisir à qui ils vendront leur force de travail et par quelle chaîne ils se laisseront enchaîner. Certes, le travailleur est rémunéré pour son labeur. Cependant, le produit de son travail est recueilli non pas par lui, mais par son employeur. Il construit le grain pour le moulin d'autrui. Les travailleurs est ainsi pris dans un cercle vicieux. Sa force de travail accroît sans cesse la propriété privée du capitaliste, ce qui conduit à toujours plus d'exploitation. De plus en plus, la société tout entière se partage entre deux grands ennemis, en deux grandes classes. Directement opposé, la bourgeoisie et le prolétariat. Voilà.
Ouais.
Et il y a voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Hein, il est trouvable sur Bandcamp et sur toutes les. Et puis eux, ils le font à des soit à des prix libres ou tu peux même le télécharger gratuitement.
Carrément.
Donc voilà, c'est Iwan
T2 et FLO.
Et FLO, exactement. C'est sorti chez CCK Productions. Donc le morceau s'appelle Wistream et cité à Brest le 13-12. Vas-y, espace Léo Ferré.
Allez, on s'écoute ça.
Check ça.
J'suis comme John Wick, j'suis comme Jackie Chan. J'ai fait du rap, j'peux pas piffrer le slam. Comme les travailleuses de Wistream. J'suis pas invité dans les festivals. Non, j'plais pas à l'industrie. Normal, y'a que de l'offense dans tout ce que j'balbutie. T'entends? Ouais, normal que j'hallucine. 40 balles, je suis bien lucide. Moi je crée pas des contenus, juste un peu déconstruit. J'enchaîne les déconvenus. Au milieu des conspis, les hipsters les confus, les rappeurs déconfient. Personne n'est à l'abri d'un égo débridé ou d'idées préconçues. Et je suis méticuleux, j'ai gardé la tête haute. Je me baigne un jour sur deux, l'oreille je m'en bats les côtes. Aïe, tu sais, je me paye du collal et des disques quand le trompeur s'offre Q7. Je suis un peu sauvage quand je m'exprime. Et chaque nuit j'encaisse les rapports du GIEC. J'écris des silences, fixe des vertiges. Comme Crystal Jelly, je produis ma propre lumière. De toute évidence, je suis bien bacré des titres. Loin de ceux qui me jugent, m'estiment grave, toc, stupère. Je suis une bestiole extrémiste. Je roule ma bosse et je dis que Fly God tue le game. Y'a peu de sauce avec lesquelles je suis cuit et chemise. Seuls certains perçoivent quand je suis là à l'assaut du ciel. J'oppose les verbes végéter et vivre. Je gratte le vernis de ce monde hardcore cruel. Je sais que l'amour inconditionnel existe.
Nantilleuse Marlon, je savoure ça comme du miel.
J'ai de l'espoir quand je pense à Nino et à Mimine. Je peux te garantir qu'il n'est pas minime. Le temps passe si vite, je dois creuser là où le mal s'immisce. Transformer cette merde comme un alchimiste. J'ai les ressources, malgré les épreuves, je dois rester debout. Chercher la lueur même au fond de ce trou. Comportement très instable comme la météo. Débat idéaux, j'explore ma part d'ombre comme un spéléo. Hey yo. Les enjeux auxquels on doit faire face sont colossaux. Je rappe pas autre chose depuis que j'en ai conscience, ça me colle aux os. J'aurais resté le même, sauf que je suis moins jugeant, un peu plus indulgent, plus délicat dans mon rapport aux autres. Des tas de problèmes qu'il est temps que je solutionne. Je serai pas ce boomer, faut que je me révolutionne. Jusqu'ici j'avais tendance à foutre ça sous le tapis. Maintenant je me prépare au grand bouleversement ou tsunami.
Ouais, nous revoilà. Donc, ben voilà, c'est un petit moment de respiration pour retourner dans le vif du sujet. Tu voulais présenter la prochaine petite capsule.
Ouais, du coup, ça, il me semblait important de, aussi de rappeler pourquoi les gens ils luttaient à Sainte-Soline. En fait, Sainte-Soline, c'était en effet un moment de violence policière exceptionnelle. Mais c'était aussi un moment de combat très très déterminé de la part de plein de gens qui étaient venus de, un peu de partout. Et en fait, on voit de plus en plus des gros mouvements écologistes, des gros mouvements de défense de la terre face à un système qui nous mène vers les ravins. En fait, d'un point de vue environnemental, c'est évident qu'en fait on va tout droit vers les ravins, quoi, vers l'effondrement, vers l'autodestruction. Et du coup, il y a des mouvements qui défendent la vie, qui défendent la terre. Et il y a plein de gens qui sont tués chaque année dans le monde pour des causes de défense de la terre, en Amérique du Sud notamment, mais en fait partout. Et de temps en temps en France aussi, comme c'était Rémi Fraisse, comme ils ont failli faire à Sainte-Soline. Voilà, du coup là, on va juste entendre quelques voix de la lutte de Sainte-Soline. Et pourquoi les gens sont opposés à ces méga bassines, pour comprendre mieux pourquoi en fait il y a eu cette intention de tuer les gens, quoi, de défoncer les gens, et pourquoi, contre quoi en fait
carrément.
Voilà.
Bah, on s'écoute ça tout de suite.
Allez.
Imaginez une gigantesque piscine qui peut faire jusqu'à 10 hectares, soit plus de 10 terrains de football creusés au beau milieu des champs. 10-15 mètres de profondeur et au fond, une bâche en plastique. L'idée n'est pas de recueillir l'eau de pluie, mais de pomper l'eau dans les nappes phréatiques.
Destinés à l'irrigation des cultures en été, ces bassins sont dénoncés comme l'énième fuite en avant d'un monde agricole industrialisé et trop gourmand en eau, qui peine déjà à se maintenir. Au fil des années, l'opposition à ces bassines s'est durcie. Et des milliers de personnes ont rejoint la lutte avec des actions symboliques, des pétitions, des recours juridiques et même des sabotages. Malgré une sécheresse hivernale inédite et des nappes phréatiques historiquement basses, le gouvernement semble déterminé à mener ses projets à terme.
Nous sommes à Mauzet, sur la vallée du Mignon, et c'est la première bassine des 16 de la COP de l'eau, et qui aujourd'hui est tout à fait pleine, puisque à partir du mois de novembre, l'État les a autorisés à la remplir. Il y en a encore 3 autres de prévues sur ce même secteur. Ça veut dire que là, sur cette petite rivière qui déjà est à l'agonie, on va en mettre 5. La première a déjà des conséquences sur le débit de la rivière et sur les zones humides et sur le milieu et sur l'eau potable. On peut essayer d'imaginer ce que ça va donner quand on en a rajouté 4. Donc on va vers du pénurie, on va vers un assèchement des sols qui va s'aggraver dans les années à venir. Il n'y a pas besoin de s'appeler Nostradamus pour prévoir ça.
Et ça risque de se reproduire. Ce qu'on a constaté cette année, c'est qu'il y a eu de gros prélèvements dans la nappe phréatique pour remplir une réserve de substitution, celle qu'on a vue tout à l'heure, là, au détriment de la nappe et des milieux naturels. Ici, en hiver, théoriquement, il doit y avoir de l'eau sur les terrains. pour permettre à la biodiversité de vivre, puisque ça, on considère que ces terrains-là sont des habitats naturels pour un certain nombre d'espèces.
L'eau stockée alimente une agriculture de céréales destinée principalement à l'alimentation des bêtes et à l'exportation.
La grande majorité des cultures ici, ce sont des céréales, c'est du blé ou du maïs, et c'est des cultures qui sont exportées à notre port en eau profonde de La Rochelle, qui vont servir à alimenter l'ensemble des usines à merde d'Europe, c'est-à-dire toutes les usines hors sol, poulets, vaches, poules, cochons. C'est à ça que ça sert. Là, on est dans une agriculture business.
Donc là, l'eau, finalement, elle est presque traitée comme une matière première industrielle.
Comme le pétrole, c'est une marchandise. Voilà. Et ce n'est pas une marchandise partagée. Encore une fois, c'est quelques-uns qui se l'approprient. Et c'est vrai que pour ceux qui ont l'eau aujourd'hui, je l'expliquais tout à l'heure, 5% du monde agricole et qui vont être accordés aux bassines, c'est le jackpot, quoi. Parce que tous les autres vont être en pénurie. On va demander des restrictions de tous les côtés, y compris aux consommateurs, surtout aux paysans. On va avoir asséché l'ensemble des sols, parce que le vrai problème et le vrai problème de fond, c'est que l'agriculture, pour se porter bien et pour que la majorité du monde agricole se porte bien, il faut que l'eau, elle soit dans les sols. Il ne faut pas qu'elle soit dans des bassines. C'est dans les sols et dans la nappe qu'elle doit être, l'eau.
Et ouais, c'est dans les sols et dans la nappe qu'elle doit être l'eau. Il a bien raison. Il a bien raison. Écoute, on s'enchaîne ça avec une capsule que tu as faite.
Ouais, là j'ai fait un petit VS justement. Moi j'ai repris des images de 2023 justement après toute cette lutte qui a été complètement décrédibilisée quoi. Et là c'est un gendarme qui était sur Sainte-Soline.
Ouais.
Et donc qui était interviewé. Et moi je vous ai fait un sorte de petit montage entre les images qui ont été lâchées par Mediapart et lui ce qu'il disait à l'époque.
Voilà, leur point de vue de l'époque et comment exactement. Ils justifiaient tout ça quoi.
Ouais, et c'est un peu compliqué vraiment, moi je trouve en plus surtout sur cette histoire là quoi, c'est hyper compliqué de leur faire confiance quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que ces images elles ne seraient pas sorties, on serait dans un autre mode. Là elles sont sorties et là leur propos à eux il est ultra mensonger.
Ouais.
Et voilà, je vous laisse écouter écouter ça quoi.
On se l'écoute, t'as quelque chose à rajouter?
Non.
Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, à certains moments, de vous retrouver au milieu d'une zone de combat ?
Écoutez, déjà, avant juste de répondre à votre question, je voudrais avoir une pensée pour les gars du peloton d'intervention, ceux de l'escadron, à nos blessés qu'on a eus au sein de l'escadron. Je pense à eux, ils ont été exemplaires et ils ont...
Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif les manifestants.
Ces images que Mediapart s'est procurées sont inédites. Elles ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes.
Donc beaucoup de courage. Pour répondre à votre question, sur le moment, oui, on a cru que c'était une zone de guerre. En tout cas, eux, ils venaient pour faire la guerre. Je suis...
Ces images que nous révélons démontrent que les gendarmes ont effectué de nombreux tirs contre des grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit. Et ce, sous les encouragements de leur chef. On y découvre aussi des propos choquants.
On crève de trop, ça calmerait.
Témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Au final, c'est une violence physique et verbale disproportionnée qui est visible dans les images de la gendarmerie.
Je me souviens quand ils sont arrivés, on a été au contact très proche avec eux. Ils étaient extrêmement bien équipés. Ils ont des boucliers avec des clous, des barres de fer. Ils ont des mortiers, des cocktails Molotov, des pavés en quantité quasiment illimitée, comme des cocktails. Ça a été un vrai déluge de feu et de pierres pendant presque d'une heure. Et ouais, sur le moment, on s'est dit que oui, ils venaient là pour faire la guerre.
Tu crois que le mec n'allait jamais se relever?
Ah ouais, il a pris ça.
Il a
dû la prendre pleine gueule.
Ah, il a pris ce pays, hein.
C'est-à-dire que vous avez eu peur à ces instants-là, dans ces instants-là?
Sur le moment, non, on n'a pas peur. On est des professionnels du maintien de l'ordre. Mmh. On est entraînés pour ça. Donc nous, on sortait en plus d'un recyclage au centre d'entraînement de Saint-Sastier. On peut pas se permettre d'avoir peur, on a de la discipline, du courage. Et en fait, sur le moment, on est simplement concentré sur la mission, sur l'objectif, sur le fait de tenir. Donc non, sur le moment, on n'a pas peur. Mais je me souviens très bien, Mehdi, un moment, quand on était vraiment en phase 2, les yeux dans les yeux, je me suis dit, mais en fait il veut nous tuer.
Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule!
Ouais, voilà. C'est vrai que c'est un peu ça que tu as envie de lui dire.
Ouais, grave.
C'est clair.
Ouais, mais c'est surtout que c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que voilà quoi, je veux dire, quand la violence elle est montrée de façon systémique, mais comment on fait pour les faire tomber ces gens quoi, comment on remet en question cette institution?
Et puis lui-même il explique là-dedans qu'ils étaient en entraînement juste avant, donc chauffés à bloc, ouais, tu vois, et que c'était eux qui venaient pour faire la guerre quoi, tu vois.
Mais c'est vrai hein, parce que c'est vrai que quand on regarde ces images-là, on dirait qu'il y a une certaine forme d'exutoire dans ce truc-là. C'est comme si les mecs n'étaient pas sortis depuis 6 ans et que là ils sont là, ils font ouais, allez vas-y on va jeter les grenades, tire. C'est hallucinant.
Il y a un mec qui jubile même, qui dit à un moment que ça fait 10 ans qu'il est dans la gendarmerie, qu'il attendait un moment pareil quoi, tu vois. Donc du coup bien preuve qu'ils étaient là eux pour faire la guerre.
Et moi je pense que c'est justement ça qui est hyper condamnable, parce que si les mecs ils font ce métier là pour justement se confronter à des zones de guerre, moi je sais pas en vrai, ou à des zones où ils tirent sur les gens, ils tirent dans la gueule des gens, en vrai faut vraiment remettre en question
ce
bras armé de l'État, comme on disait tout à l'heure quoi.
Tu nous présenterais ce qui va suivre
prochaines.
Les deux prochaines,
et ben en vrai,
on va
moi,
se les enchaîner.
Ouais, pardon, excuse-moi, pardon. Je t'ai coupé. Non, c'est vas-y. Moi. Ouais, donc du coup, en vrai, moi, j'ai repris des images d'époque. Donc, comment on parlait de Sainte-Soline en 2023. Donc ça a été un peu la mémoire des luttes environnementales, dont Sainte-Soline. Et ensuite, c'était c'était l'avènement de Darmanin qui voulait dissoudre cette association qui sont les Soulèvements de la Terre.
Hein, ouais, qui les mettait dans un truc de terroriste.
C'est ça qu'il disait, je crois que c'est la première fois où ils ont parlé d'éco-terrorisme.
D'éco-terrorisme, voilà.
Ouais. Ben non, en vrai, non, c'est juste de la lutte. Et effectivement, comme la boubourse du copain qu'il a passé juste avant, et ben en vrai, oui,
la
capsule.
C'était avant les boubourses.
C'est des boubourses, c'était avant, c'est vrai. La capsule du poteau qu'il a passé avant, et ben du coup, c'est ça, c'est qu'on quantifie les choses les plus essentielles et que tout est capitalisé. Donc, oui.
Ouais,
finalement, quand on est maintenant, on veut défendre la Terre, et ben on est des éco-terroristes. C'est quand même un monde.
C'est quand même hallucinant.
Hein, ouais.
Bon, ben on s'écoute ça.
Allez, check ça.
Moi, je n'ai rien à cacher. Et je veux redire une fois que si ces deux gendarmes ont tiré des LBD alors que les ordres n'étaient pas ceux-là, ils sont suspendus. Ça ne met pas l'ensemble de la gendarmerie nationale dans l'accusation d'avoir été violente. Puisque chacun constate sur toutes les images que nous avons vues que c'est bien les casseurs qui ont été violents. Vous savez, les armes de guerre, elles ont été utilisées, oui, mais par les casseurs. Les gendarmes, ils n'ont pas de cocktail Molotov. Ils n'ont pas d'explosifs, des tirs de mortier sur les casseurs. Ce que j'ai vu, c'est des armes de guerre utilisées, oui, mais par les casseurs. Et ça, j'en ai vu. Et là, encore une fois, qu'on soit pas capable, Madame Mabrouk, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, de condamner la violence, surtout quand on vient de mouvements dits pacifistes, contre les gendarmes. Ça n'a rien à voir avec être pour ou contre les bassines. Qu'on soit pas capable de le faire, je pense qu'il y a quelque chose de grave dans la République.
Ma conviction intime, c'est qu'ils nous ont tendu un piège et que Sainte-Soline s'est absolument déroulée comme il l'avait imaginé.
Il est dans le viseur du gouvernement depuis plusieurs mois maintenant. Le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre va être dissous ce mercredi en Conseil des ministres. Annonce faite la veille par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui l'assure, aucune cause ne justifie que l'on blesse des policiers et des gendarmes. Cette décision fait suite aux violences entre forces de l'ordre et manifestants contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Et ce n'est pas la première fois que le mouvement est pointé du doigt par l'exécutif. Le week-end précédent déjà, les soulèvements de la Terre avaient été mis en cause lors d'une manifestation en Loire-Atlantique. Rassemblement contre l'extension d'une carrière de sable, lors duquel des coups de poing ont été assénés. En mars, c'est à Sainte-Soline qu'il fait parler de lui. L'idée de sa dissolution est alors lancée par Gérald Darmanin.
Ouais, ben voilà, on a fait un peu le tour sur Sainte-Soline, là, c'était lourd tout ça, pas facile à diffuser et à accepter d'entendre tous ces trucs-là. Je pense qu'il y a un truc, un truc qui est clair, c'est que nous ne sommes pas en démocratie et moi j'avais une petite capsule... qui vient de Laurie, la source c'est Mister Mondialisation, et qui va vous expliquer d'une manière assez synthétisée le pourquoi du comment et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à des événements pareils, quoi. Donc on s'écoute ça, et puis juste après on vous enverra une petite musique dans la foulée pour redescendre un petit peu la pression, et puis on enchaînera derrière sur un autre sujet.
Mais oui.
Allez, on s'écoute ça tout de suite.
Démocratie, le mot magique, celui qu'on colle sur tous les discours, toutes les affiches, même les tanks parfois. Ne pas se dire démocrate aujourd'hui, c'est comme expliquer qu'on n'aime pas les chatons, c'est suicidaire. Il y a les pays démocrates d'un côté et les autres, et pourtant, accrochez-vous, ni la France ni aucun pays sur Terre n'est une vraie démocratie. Oui, on sait.
Essayez la dictature et vous verrez.
Merci Manu. Sauf que le monde ne se résume pas à un duel entre les gentils démocrates et les méchants tyrans. Démocratie vient du grec demos kratos, le pouvoir au peuple. Et à Athènes, au 5e siècle avant notre ère, c'était pas juste un slogan sur une statue. Les citoyens participaient directement aux décisions. Pas d'élection, pas de représentants tout puissants. On tirait les responsables au sort. Et oui, le hasard tranchait. Et devinez quoi, ça marchait plutôt bien. Parce qu'à l'époque, élire quelqu'un, c'était antidémocratique. Aujourd'hui, on a inversé le sens du mot. Démocratie, ça veut dire on vote tous les 5 ans et on se tait entre-temps. Plus aucun pouvoir au peuple, si ce n'est de choisir ses maîtres. Tout aux représentants, avec aucun compte à rendre. Alors comment en est-on arrivé à ce grand écart? Au 18e siècle, les fondateurs de nos régimes modernes détestaient la démocratie. Le deuxième président américain, John Adams, l'a traité de tyrannique, arbitraire, sanglante, cruelle, intolérable. En France, l'abbé Sieyès, grand acteur de la Révolution, assurait que dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et pourtant, 40 ans plus tard, un certain Andrew Jackson arrive. 1828, États-Unis. Il se proclame candidat du peuple, fonde le Parti démocrate et promet d'incarner la volonté populaire. Spoiler, il ne change rien au fonctionnement. Mais son coup de com' marche si bien que toute la classe politique finit par copier le concept. Le mot démocratie devient alors une marque déposée du pouvoir, une étiquette brillante sur un système qui en réalité reste plutocratique, c'est-à-dire dirigé par les plus riches. Et 2 siècles plus tard, on y croit encore. Pourtant, des alternatives existent. Le tirage au sort pour garantir l'égalité, le référendum d'initiative citoyenne pour décider directement, ou même une assemblée constituante populaire pour enfin écrire nos propres règles du jeu. Parce qu'au fond, si la démocratie signifie le pouvoir du peuple, peut-être qu'il serait temps d'arrêter d'en parler et de commencer à la pratiquer.
Que dit le gouvernement? Quelles sont les informations qu'il amasse?
Pour eux tu mens, si t'es musulman, c'est que t'es du Hamas. Al-Qaïda, Boko Haram, c'est la taquillasse, on te voit dans un hammam. Si t'es pour le conflit et tu vois du bonheur, t'as la légion d'honneur comme Sofia Haram. Que font les états arabes? Depuis la Nakba, on a passé un cap, et ça il assure. Rayer Gaza de la carte et en faire la prochaine Côte d'Azur. Ça les rassure, ils font ce qu'ils veulent, ils sont sans limite. Évidemment, toujours pas de sanctions. Si t'ouvres ta gueule, t'es antisémite. Alors que non, finir le travail pour de bon, c'est bien réel, c'est des. C'est le message qu'ils envoient. Comment génocider Israël a le mode d'emploi. Ne pas être insensible, c'est impensable. Ils sont pris pour cible, on leur fait que du sale. Oui, les Gazaouis bouffent du sable. Bientôt leur excrément. Tous les jours c'est des bombardements. Privés d'eau et de médicaments. Quand est-ce que la Palestine pourra vivre paisiblement? Pas gêné par le génocide, ni par l'idée de déloger des gens. Ils se félicitent des infanticides. Qui les écoute est intelligent. Qui les entend est un fils, un frère, un fidèle, un allié, un bon élément. C'est le massacre, ils sont forts, fiers. Je dis Gaza, mais c'est indécent. Si tu dis non, t'es dans le déni. Ouais, c'est toi qui agresses. Y'a pas de colons, un seul pays, c'est bien ce que dit la presse. Il faut dire oui à la tyrannie, au corps éclaté, à la dynamite. Tourner le dos à la réalité, consoler le bourreau qui n'a plus d'amis. Si je donne mon avis, je suis l'ennemi de l'intérieur. J'apporte le conflit, brandis le drapeau de la terreur. Ils parlent de morts qui n'ont pas d'odeur. Ils veulent du sang, ce n'est pas le leur. Ils m'ont traité de barbare, de wokiste et d'islamo-gauchiste, et c'est un honneur. Traité de barbare, de wokiste et d'islamo-gauchiste, et c'est un honneur.
Et ben voilà, c'était Kazé et Harry Lahache, enfant de Gaza.
Grave.
Voilà, c'était pour enchaîner sur une petite chronique que notre camarade ici présent va ramener à vos oreilles. Je voulais juste revenir sur un petit point, si vous voulez bien, vite fait. L'histoire de Laurie, nous ne sommes pas en démocratie. J'espère que vous avez bien entendu. On vit dans une plutocratie. C'est les plus riches qui ont le pouvoir. Et ça, ça fait un petit moment que ça dure.
Bien sûr.
Il ne faut surtout pas se leurrer et surtout ne pas oublier ça. Voilà, on te passe la main.
Merci, camarade.
Avec grand plaisir.
Et bah du coup ça fait un enchaînement du coup avec les morceaux que tu as passé là. Je voulais parler justement de, j'avais déjà parlé il y a un mois de la solidarité avec la lutte du peuple palestinien et surtout contre les génocides qui est en train de se passer là. Et du coup je reviens encore sur ça, sur des nouvelles manifestations qu'il y a eu en Italie pour les peuples palestiniens. Du coup, il y a eu vendredi 21 novembre un match de basketball où il y avait l'équipe de Maccabi Tel Aviv venue d'Israël. Et du coup, il y a eu un gros mouvement pour des protestations pour empêcher la venue de l'équipe israélienne. Et en demandant en fait d'annuler ces matchs pour dénoncer la normalisation de l'état génocidaire à travers des déplacements sportifs notamment dans les compétitions européennes, parce que c'était l'Euroleague. Et du coup, pour visibiliser les crimes d'Israël, et, du coup, il y a eu un gros cortège qui s'est dirigé vers les stades de basket de Bologne avant le démarrage du match. Et du coup, à 20h, il y a eu des affrontements dans la ville, des grenades lacrymogènes, des barricades enflammées. Et finalement, le match, il a quand même eu lieu, mais la ville avait été transformée en bunker. Quoi. Il y a eu une grosse militarisation. Et ça a visibilisé encore de manière très forte. Ça s'est passé à la une dans les médias. Et ça a visibilisé la question palestinienne et le fait qu'il y a plein de gens qui, en fait, ils sont pas d'accord avec ce qui se passe.
Ouais, ouais.
Et après, il y a eu une grève le 28 novembre en Italie, toujours, en occasion de la loi des finances, des projets de loi des finances de Giorgia Meloni. Un projet qui prévoit des coupes pour la santé et pour l'éducation pour donner plus de moyens à l'armée. Et comme j'avais déjà expliqué il y a un mois, l'industrie italienne est directement liée à l'industrie israélienne, l'industrie militaire italienne envoie des armes et des produits militaires, des technologies militaires à Israël. Ça s'appelle Leonardo, c'est une grosse industrie mondiale du militaire. Quoi. Et du coup, il y a eu des grosses manifestations, des blocages. Et sur une ligne clairement antimilitariste, du coup, pas juste par rapport à la question palestinienne, mais de manière générale, contre l'état de guerre dans lequel ils sont en train de nous introduire.
Ouais.
Et un épisode qu'il y a eu, c'était à Turin. Et en fait, il y a eu un imam qui était pro-Palestine, qui faisait des discours assez forts contre la Palestine. A été accusé de terrorisme.
Contre Israël, tu veux dire.
Contre la Palestine. Contre
la Palestine.
Ah, non, contre Israël.
Ouais.
Du coup, en fait, les gars, il n'avait rien à voir avec les mouvements islamistes. C'était quelqu'un qui était juste, d'une certaine manière, très actif dans la cause pro-Palestine. Et du coup, il y a eu un ordre d'expulsion vers l'Égypte. Lui, il est originaire d'Égypte.
Okay.
Et il risque la peine de mort là-bas.
Ah, ouais, ouais.
Et du coup, l'État italien, il a décrété l'ordre d'expulsion de ces gars-là. Et du coup, tous les journaux, ils ont parlé de lui comme un terroriste islamiste, alors que rien du tout. Quoi.
Bien sûr.
Du coup, les manifestants à Turin, ils sont allés dans la presse, dans les journaux là où ils parlaient comme ça de ces gars. Ils ont jeté des fumiers, ils ont fait des tags pour la Palestine, ils sont rentrés pendant une manifestation, ils ont réussi à rentrer dans... Voilà, ça c'était deux épisodes intéressants qu'il y a eu en Italie récemment.
Ouais.
Et voilà, après je voulais passer aussi des infos par rapport à une action du coup, revenir en France, et plutôt sur les questions écologistes encore, ouais. Comme on parlait tout à l'heure de Sansolin, sur une action qui a été faite en gros contre l'industrie BASF, qui est une industrie des pesticides.
Ouais.
Et une des quatre industries plus importantes au monde des chimies et des pesticides. C'est un conglomérat d'entreprises allemandes. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et voilà, du coup, il y a eu 500 personnes vers Rouen. Je ne sais pas exactement, c'est près de Rouen. Et en fait, ils sont arrivés avec des tracteurs, avec des combinaisons blanches, ils sont rentrés, ils ont déversé du fumier, ils ont mis des banderoles. C'était rien de très violent, quoi,
mais
en tout cas,
quoi.
C'était vraiment pour visibiliser le fait qu'en fait, dans cette industrie, on produit des pesticides qui sont interdits en Europe pour revendre en Amérique du Sud.
D'accord.
Et du coup, ça, on vous laisse du coup écouter la
capsule.
Ouais. La capsule qui il y a les entretiens des gens qui.
Ok, ben, on s'écoute ça tout de suite.
...90% de ces victimes sont des paysans. Notre ami Christian, paysan décédé en avril dernier, d'une leucémie aiguë lymphoblastique, répétait sans cesse « Les pesticides ont bousillé ma vie ».
Ici sur site, on a des productions de produits chimiques interdits d'usage agricole en France et en Europe, qui sont par contre autorisés et bien autorisés dans des pays de type Brésil. Et ensuite, nous, paysans, on lutte contre des produits alimentaires, notamment de la viande, du sucre, du lait, qui rentrent en Europe avec ces épandages de chimiques.
Ici, BASF fabrique des PFAS, car son credo, c'est de la chimie pour un avenir durable. En effet, c'est durable. Chaque particule de PFAS produite ici restera parmi nous des centaines, voire des milliers d'années. À sa sortie d'usine, chaque particule part pour un voyage sans fin dans notre environnement, jusque dans nos cellules, pour détraquer le fonctionnement même de la vie. Et BASF ne s'arrête pas là. La multinationale produit des composants de pointe dédiés aux médicaments contre le cancer.
C'est dur, c'est très dur une chimio. C'est très dur d'avouer qu'on est là, malade, à cause de son travail, de 40 ans de travail. Aujourd'hui, je suis de nouveau en chimio par médicament, mais je me suis dit, je vais venir encore, je vais venir là-bas, avec tous mes copains qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer. Tous mes copains qui sont décédés. Sur 400 mètres, on trouve 4 cancers. Mais mes enfants qui étaient sur le tracteur, qu'est-ce que j'ai pu leur faire? Les voisins, qu'est-ce que j'ai pu leur faire? Donc, chaque jour, c'est dans ma tête, comme ça, tous les jours, tous les jours. Mais j'aurais pas des amis comme vous, ben je lâcherais encore. Donc, je me bats avec vous. Hein, je crois dans ce combat. Il faut arrêter cette saloperie. Tout près, dans la commune d'à côté, à Sainte-Pazanne, on a des cancers pédiatriques. Des tout petits. C'est pas possible quand même.
Ouais, c'est ce dernier témoignage, ça fait vraiment...
Ah, c'est touchant, ça fait touchant, ouais, des frissons. Hein.
C'est incroyable. Ouais. Et aussi, je trouve ça vraiment important que c'est quelqu'un qui a fait ça aussi et qui se rend compte au bout d'un certain temps et qu'il paie les conséquences sur sa peau et qu'il dit « Je me rends compte de ce que moi j'ai fait en fait sur mes voisins, bien sur sûr. Les enfants de notre village. » Et qui a aussi une autocritique. Après, c'est les derniers maillons de la chaîne. Quoi. Mais quand même, ils ont aussi une responsabilité quand ils dépendent des pesticides. C'est ça, c'est du coup, entendre quelqu'un qui dit, en fait, moi j'ai fait ça pendant 40 ans.
Mais moi, je voulais rajouter un truc un peu personnel là-dessus. J'ai mon oncle qui était agriculteur, mon grand-père était agriculteur en région parisienne. Ils avaient une ferme céréalière, donc ils ont diffusé du pesticide à foison qui leur a été vendu comme quelque chose de moderne et qui permettait un rendement de dingue et tout ça, tu vois. Et qui était vendu comme quelque chose qui n'était pas du tout néfaste. Aujourd'hui, mon oncle, qui était physique, sportif, tout ça, il a Alzheimer et c'est un légume, quoi. Donc voilà, tu vois, tous ces gens-là, on leur a vendu des choses sans leur dire la vérité. Et eux, bah, ils voyaient quoi, la possibilité d'avoir des meilleurs rendements, plus de céréales, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Tu vois.
Ouais, et puis c'est surtout que l'industrie des pesticides, c'est une grosse industrie dans le monde, hein, vraiment. Et c'est exactement ce que je voulais dire, c'est exactement ça, c'est que... On te propose toujours quelque chose de mieux qui va à l'encontre du produit d'avant. Et comme tu dis, c'est soit du rendement ou soit des fois, ils mentent en vrai. Hein. Ils disent aussi
que
c'est pas dangereux. Sauf qu'on se rend bien compte, effectivement, comme tu l'as dit, depuis les années 60, qu'il y a toute cette courbe qui fait que ça ne s'arrange jamais. Et c'est assez touchant parce que le monsieur, je pense que c'est un vieil agriculteur.
Et
il dit qu'il y a des cancers pédiatriques à côté, quoi. C'est-à-dire qu'il fait du mal au prochain, quoi.
C'est terrible.
Ouais, c'est terrible. Vraiment, c'est.
Et du coup, moi, je voulais enchaîner avec toujours à propos de l'industrie chimique et des pesticides.
Ouais.
Et il y a eu un sabotage dans l'Ain. Et du coup, j'ai trouvé la revendication de ces sabotages sur le site sansnom.noblogs.org.
Ouais.
Et en gros, c'est un sabotage qui a touché l'alimentation électrique d'une grande plateforme de chimie. Et je vous lis ici.
T'as perdu ton papier.
Je vous lis ici un extrait de cette revendication.
Ouais.
En gros, l'action s'est passée dans la nuit du 5 octobre et ils ont mis le feu au câble de l'obtention. Et ils disent c'est le 60e anniversaire, 1965-2025, de la plateforme chimique des Ballons qui produit des poudres et des granulés de plastique à usage industriel. Pourtant, il n'y a rien à fêter. 60 ans que cette bombe industrielle à retardement classée Seveso fait planer sa menace sur la région. 60 ans que les granulés se répandent dans les cours d'eau, les champs et les bois aux alentours. Et, 60 ans que les fumées, les microplastiques, les PFAS, rendent les riverains, les animaux, les arbres, les plantes malades avec des cancers. 60 ans que la chimie rend les ouvriers complices de la destruction de la terre et de la dégradation de leur propre santé. 60 ans que les grands groupes chimiques comme Arkema, Solvay et BASF mènent leur guerre chimique contre la terre, les océans et l'air. 60 ans que les lumières de cette usine cachent les étoiles.
Wow.
Et voilà. C'est un bel.
Très
poétique.
Carrément.
Et c'est un extrait, après la revendication est la plus longue, je ne vais pas tout lire. Mais...
Ouais.
Et puis c'est vrai que tout ce département-là, c'est vraiment le comment il l'appelle, la Plastic Valley. C'est vraiment
là où
ça produit de partout. La grosse industrie de plastique en France, elle est placée là-bas. Donc, très bien.
Et qui leur pourrit leur cours d'eau. Et
c'est beau, franchement, je ne sais pas si vous connaissez là, mais c'est assez beau. Il y a des belles rivières, il y a des jolis lacs, et c'est vraiment pourri par l'industrie du plastique.
Et encore une dernière info, du coup, toujours plutôt en mode sabotage.
Ouais.
Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu des échos dans les dernières années, il y a eu, notamment depuis que Elon Musk il a pris les pouvoirs aux États-Unis avec à côté de Donald Trump.
Ouais.
En fait, il y a eu pas mal d'attaques contre Tesla.
Ouais.
Et du coup, les dernières en France, c'était il y a quelques jours.
Okay.
Et c'était un incendie de plusieurs voitures dans un concessionnaire.
Okay.
Et c'était vers Marseille. Et j'ai une petite capsule à vous faire écouter où ça fait il y a quelques extraits d'infos de France à ça.
D'accord. Voilà. Ouais, parce qu'il y en avait eu déjà pas mal aux États-Unis.
En France, en Italie. Ça fait quand même des dizaines d'actions quoi quand même.
Quand tu fais des bras tendus mon pote, après retour de bâton dans ta gueule.
Bah, grave.
Voilà, écoute, on s'écoute ça.
Allez,
ça marche.
Également dans l'actualité de ce jeudi, cet incendie très important la nuit dernière au Pays Mirabeau, au nord de Marseille. Plus de 50 pompiers ont été mobilisés pendant 3 heures. Au moins une quinzaine de voitures Tesla garées chez un concessionnaire ont été détruites. Il n'y a pas de victimes. La piste criminelle est privilégiée.
Des véhicules Tesla ont été incendiés et criblés de balles dans une concession du constructeur à Las Vegas. Sur ces images de vidéosurveillance, on peut voir plusieurs voitures s'embraser et une personne habillée en noir passer juste à côté. Les enquêteurs ont aussi découvert le mot résist tagué sur le bâtiment Tesla. Depuis la nomination d'Elon Musk à la tête du nouveau département américain de l'efficacité gouvernementale, des actes de protestation ont été commis contre Tesla aux États-Unis et dans le reste du monde.
Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'Elon Musk attise la colère, puisqu'une douzaine de Tesla ont été incendiés chez un concessionnaire près de Toulouse. Le feu est survenu dans la nuit du 2 au 3 mars, et ce qui est sûr, c'est que son origine n'est pas du tout accidentelle, a fait savoir un magistrat du parquet de Toulouse. D'ailleurs, l'acte a été revendiqué par un collectif anarchiste.
C'est un sabotage qui risque de coûter cher à Tesla. Ce mardi, faute d'électricité, le constructeur de véhicules électriques a dû stopper sa production jusqu'à nouvel ordre dans son usine située dans la banlieue de Berlin. Selon les autorités locales, un pylône électrique aurait pris feu près du site. Tesla estime que cet incident va lui coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Le sabotage a été revendiqué par un groupe de militants écologistes connus des services de police pour des faits similaires. En 2021, ces activistes avaient déjà revendiqué un incendie criminel sur un chantier de Tesla. Cette usine, située dans une zone boisée, est la seule de Tesla en Europe. Récemment, le projet du géant américain d'agrandir le site pour augmenter sa capacité de production a suscité la colère des défenseurs de l'environnement. Depuis plusieurs jours, des militants occupent une forêt près du site pour empêcher d'éventuels travaux.
Le milliardaire
militaire américain a qualifié d'éco-terroriste le mouvement écologiste qui avait revendiqué l'action de sabotage, déclarant vouloir empêcher l'agrandissement du site de Tesla.
Oh, j'ai un peu coupé d'une manière abrupte, désolé.
Encore eux, hein. Les éco-terroristes.
Les éco-terroristes.
Et du coup, là, pour finir sur Tesla, bah, du coup, je voulais juste revenir vite fait sur les derniers trucs dont il parlait. C'est en fait, ça part de la Gigafactory, c'est et le nom des usines de Tesla et d'Elon Musk, des batteries pour voitures électriques et pour fabriquer des voitures électriques. Et du coup, il y a une méga usine à Berlin qui est en train d'agrandir encore son site de production. Et du coup, il y a un loot là-bas en mode un peu ZAD, avec des occupations, plein de manifestations. Ça fait quelques années que ça bouge pas mal en Allemagne par rapport à ça. Et là, récemment, du coup, j'ai trouvé par rapport à... Du coup, après avoir entendu cette histoire de Marseille, je suis allé un peu fouiller sur Internet... Et du coup, j'ai trouvé un texte qui appelait à s'en prendre à Tesla.
Okay.
Et j'ai trouvé que c'était bien expliqué. Ça expliquait bien les raisons, les différents... Qu'est-ce que ça symbolise aujourd'hui, Tesla. Et du coup, je vais vous lire un extrait de ce texte. Pas en entier parce qu'il est long, mais en tout cas, des passages intéressants.
Ok.
Et bien, du coup, le texte, je l'ai trouvé sur le site attack.noblogs.org. Il dit... En ces temps obscurs, l'horizon semble bouché par l'asservissement techno-industriel, la guerre, la montée en puissance du fascisme et avec le renforcement du patriarcat à ses côtés. Les voitures électriques sont l'un des maillons de l'électrification en marche forcée qui a lieu dans le monde au nom d'un mythe nommé transition énergétique ou transition écologique. Ce mythe, c'est celui d'une société technologique qui serait moins polluante, d'un capitalisme plus vert, quand la réalité est celle d'une accentuation du désastre industriel qui ravage aujourd'hui notre planète. Loin de remplacer l'énergie fossile, les énergies dites renouvelables viennent s'y superposer pour intensifier la production et la course du progrès. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les nucléaires ne font qu'augmenter les besoins en minéraux et donc l'exploitation et la pollution de la Terre à travers l'existence des mines. Les voitures électriques n'échappent pas à cette logique puisque leurs batteries nécessitent du lithium. Ce n'est pas un hasard si les États se battent actuellement pour la souveraineté de leur chaîne d'approvisionnement en métaux stratégiques, ce qui passe autant par des conflits mondiaux que par la relance minière à l'intérieur du territoire, comme par exemple les projets controversés d'une mine de lithium dans l'Allier en France qui suscite de nombreuses oppositions. Les voitures électriques, c'est aussi un des symboles du monde connecté. Caméras, capteurs, téléphones, montres, frigos et lampadaires connectés. C'est à l'heure actuelle tout un internet des objets qui se déploie. Ils nous dépossèdent d'un rapport direct au monde qui nous entoure tout en intensifiant encore la surveillance et les contrôles. Chaque Tesla comporte 8 caméras et représente l'idéal de la Smart City, un obstacle supplémentaire à la liberté. Tesla, c'est aussi l'empire bâti par Elon Musk, célèbre géant de la tech qui ouvre aux côtés de Donald Trump dans son offensive fasciste et patriarcale qui est loin de se limiter aux frontières des États-Unis. Combattre les systèmes techno-industriels, combattre les patriarcats, combattre la dévastation de la nature et la misère sociale qui en découle, combattre le fascisme, aspirer à une vie plus libre.
Carrément.
Oui, oui.
Ouais, bravo à eux.
C'est le combat grave.
On est tout à fait d'accord. Justement, par rapport à ça, moi, je trouvais intéressant de vous balancer une petite capsule. Là, on pourra discuter un petit peu de tout ça juste après. Là, c'est source de Combini. Comment prévenir le fascisme ? Comment elle s'appelle, Salomé Sake qui fait ça, et quelqu'un qui intervient souvent sur Blast. Je vous propose d'écouter ça, et c'est un peu ce qu'on fait dans cette émission.
L'extrême droite a compris comment imposer ses idées, notamment par le biais de l'espace médiatique, par notamment le biais de grands milliardaires qui... mettent en valeur les idées d'extrême droite dans des médias qu'ils ont rachetés. On pense bien évidemment à Vincent Bolloré, mais aussi à Pierre-Édouard Sterrin, et bien sûr aussi par le biais des réseaux sociaux. Et là, je m'appuie sur tout ce qu'on peut voir sur l'essor des masculinistes, hein, qui sont quand même très très liés à l'extrême droite. Et bien sûr, tout un tas de fausses informations. Ça nous vient notamment des États-Unis, ça a été théorisé par Steve Bannon, ancien bras droit de Donald Trump, qui dit « la stratégie médiatique, c'est flood the zone of shit », inonder la zone de merde. Le résultat, c'est que plus personne ne sait quoi croire. Mon combat à moi, c'est de dire « gardons une réalité commune », essayons d'avoir des discussions sur lesquelles on a certes plein de désaccords, mais où on se base sur des faits vérifiés. On ne bascule jamais, du jour au lendemain, dans un régime fasciste ou dans un régime autoritaire. C'est quelque chose qui s'installe doucement, qu'on ne voit pas venir, qui ne s'annonce pas. Et c'est précisément ce qu'essayait de décrire Umberto Eco dans son essai sur l'ourd fascisme, hein, cet intellectuel qui avait survécu au fascisme en Italie et qui disait « attention, le fascisme peut revenir, mais sous d'autres formes, et il ne s'annoncera jamais comme tel ». Et c'est pour ça qu'il est si important de le reconnaître. Quand on constate toutes les dérives à l'œuvre, je pense qu'il est sain de s'indigner. Donc la première étape, c'est de vérifier l'objet de son indignation, et ensuite, de passer à l'action. Ça peut être la diffusion de l'information autour de soi, à ses proches, ça peut être soutenir la presse libre, ça peut être de s'engager dans une association, ça peut aussi être tout simplement de créer des chansons, de créer de l'art. Mais le plus important, c'est de surtout pas rester dans l'inaction.
On est bien d'accord.
C'est pour ça que je disais, c'est un peu ce qu'on fait. On reste pas dans l'inaction et on essaye de discuter de toutes ces choses qui nous cisaillent et qui nous assaillent. Prévenir contre tous ces gens-là qui utilisent leur force médiatique et leur force industrielle pour nous asservir, soi-disant pour nous servir, mais plus pour nous asservir, hein, comme tu disais, les caméras dans ta bagnole, tu vois. J'ai même vu des gens qui disaient, qui avaient tagué leur propre Tesla en disant « j'ai une Tesla, mais j'aime pas Elon Musk ».
Ah ouais, pas
mal. Voilà, tu vois, parce qu'ils avaient peur de se les faire péter, donc du coup...
Ils les ont vandalisés eux-mêmes.
Ouais, mais tu l'as quand même acheté, hein, tu vois.
Salaud de riche. Ouais, non, mais c'est vrai que là, sur la dernière phrase qu'elle disait, qu'effectivement, la mobilisation, elle est effectivement d'aller parler à tes proches, de se mobiliser dans des associations. Nous, on l'a souvent dit, on le répétera toujours, que la lutte est belle et en commun et en collectif. Moi, je pense qu'il faut rassembler nos forces, hein, il faut une convergence de lutte, il faut s'intéresser, il faut effectivement aller à la source, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on vit quand même une droitisation, mais vraiment, alors moi, je sais
violente.
Pas, j'ai moins de 50 ans, mais je m'en approche, et je crois que c'est vraiment la première fois où je sens vraiment une montée insidieuse comme ça de la droite, et il faut se mobiliser, parce que ça va arriver, quand ça va arriver, ça va arriver fort, parce que là, ils nous vendent du rêve en nous disant que on les a jamais essayés, que ça peut être une opportunité ou une chance de les avoir, mais
en plus c'est faux.
Mais c'est faux, mais c'est surtout que c'est faux et c'est surtout que ils en ont pas les capacités et on sait très bien comme on dit souvent, le savoir est une arme, et si on connaît son histoire, on sait très bien comment ça arrive. On en parlait tous les trois tout à l'heure. Et là, ce qu'on est en train de vivre, toutes ces montées de guerre, toute cette envie, même en France, là, du président qui nous dit qu'il va réintégrer le service militaire, c'est pour préparer justement un sorte de chaos qui va soi-disant revenir l'économie. C'est pas vrai. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens, mais il faut qu'on mêle nos forces et qu'on soit en commun, en tout cas qu'il y ait quelque chose entre nous qui nous lie, exactement, et qu'on l'oublie pas, qu'on est ensemble et que quoi qu'il arrive, que ça soit la merde, on sera ensemble, ou que ça soit la joie, on sera ensemble. Alors voilà, mobilisons-nous. Je sais pas quoi dire de plus, mis à part que la lutte est belle en collectif. Et ça, moi, je le sais. En tout cas, c'est ce que je prendrai toujours, quoi.
Moi, je voulais ajouter aussi, du coup, par rapport à cette idée des fascismes. Non, qu'est-ce que c'est les fascismes? Parce que souvent, on a un peu l'habitude des fascismes dans l'histoire. On nous les présente comme les méchants de l'histoire. Parce que, en effet, l'État français, il était de l'autre côté dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, si on pense ce que c'est les fascismes, c'est la répression violente de la lutte, de l'opposition. On a vu ce qui se passe à Sainte-Soline, qu'est-ce que fait la police en France aujourd'hui. Le fascisme, c'est l'exaltation de l'industrie, de la modernité industrielle à tout prix. Et c'est en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui par la gauche et par la droite. En fait, exalter ces modèles industriels, d'aller toujours plus vite, toujours plus de béton, toujours plus de technologies dans tous les sens. C'est l'exaltation de la nation et de la guerre. On voit dans les discours de tous les États d'Europe aujourd'hui comment on nous prépare à la guerre.
Bien sûr.
Et en fait,
on peut juste aller aussi oublier les mots fascisme, mais en fait, les fonds, c'est exactement la même chose que ce qu'on est en train de vivre. Quoi. C'est aussi ces trucs, je sais pas, ouais, faut pas trop s'attacher aux mots, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots.
Mais pareil, hein, pour revenir sur Hitler, qu'on prône comme étant la référence du fascisme, enfin, ou une des références du fascisme dans ta gueule, il n'est pas venu là comme par hasard. Il a été mis au pouvoir par des gens qui avaient de l'argent et qui voulaient protéger leur argent et qui n'ont pas du tout été inquiétés, tu vois. Donc voilà, c'est l'histoire qui se répète. Hein. On est vraiment dans ces phases-là. Quoi.
Moi, ouais. Je pense que pardon, le niveau de violence aussi de l'État, il est proportionnel aussi au niveau des luttes. Quoi. Plus il y aura de la lutte, plus les luttes représenteront un danger pour le pouvoir et plus l'État sera prêt à déployer au niveau des violences. Et on l'a vu en fait comment ça a basculé avec les Gilets jaunes à Sainte-Soline. Et évidemment, s'il n'y a pas de lutte, ils n'ont pas besoin d'appliquer un niveau de violence, ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas les faire.
Ouais, complètement.
Mais en fait, que ce soit un État démocrate, un État de droite ou de gauche, en fait, à partir du moment qu'il y a des vraies mises en question du pouvoir des riches, pour moi, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à...
Complètement. Et en plus, on est un peu comme un laboratoire... tu vois, où ils développent plein de produits et qu'ils revendent après à plein d'autres pays. Tu vois, en France, quand même, c'est répression de la lutte, c'est un peu aussi, tu vois, comment...
Le savoir-faire
français et une façon d'être les représentants, tu vois, de la lutte... enfin de la lutte anti-lutte et donc du coup tu vois il y a dans une prochaine émission je pense que je vous lirai, j'avais trouvé un papier mais que j'ai pas tellement synthétisé où justement il disait quand même que quelques chiffres hein, depuis 2018 il y a jamais eu en France moins de 10 000 munitions de LBD et grenades explosives tirées chaque année par la police et la gendarmerie sur la population. Tu vois, ce qui fait moins de... il y en avait moins de 500 avant 2015, quoi, tu vois. Ben donc, oui. On est en plein essor de tous ces trucs-là. Et qu'effectivement, il y a, tu vois, en France, un salon qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, hein, le 18 novembre, qui est le salon de la représentation des armes, tu vois, de police, qui s'appelle le Milipol. C'est une grande foire internationale où, du coup, on montre tout notre savoir-faire militaire de répression contre le peuple.
Et on te vend toute la journée que c'est la France et quand même la démocratie et que si on n'est pas content, il faut aller voir ailleurs et on nous montre du doigt des soi-disant dictatures africaines et des dictatures d'Amérique du Sud alors qu'en vrai, on ne vit pas en démocratie. Et ça, il faut vraiment que les gens, c'est pas le droit de vote, ça n'a jamais été la démocratie. Du moins, non, ça n'a jamais été la démocratie.
C'était la capsule qu'on a écoutée plus tôt dans l'émission qui nous démontre qu'on est dans une plutocratie. Exactement. Le pouvoir aux riches, tous les gens qui ont le pouvoir... En tout cas, en France, à l'heure actuelle, ils ont tous plein de pognon. Quoi.
Et c'est surtout que là, on peut le dire, parce que les Bolloré, les tout cela, les Bernard Arnault, on voit qui c'est. Mais en vrai, c'est qui le CAC 40? C'est qui les actionnaires de ces boîtes? C'est qui détiennent? Parce que c'est ça. En vrai, c'est cette bulle financière-là, c'est qui ces gens? On ne les voit jamais. C'est quoi leurs avantages? Pourquoi ils font ça? Tu vois, c'est assez opaque. C'est assez opaque et nous, on est toujours condamnés à nous dire mais non, mais en vrai, on est en démocratie, tout va bien, vous êtes protégés.
L'Occident, il est distillé petit à petit. Quoi. C'est pas qu'il direct, en fait, vont dire voter Rassemblement National. En fait, c'est juste petit à petit, dans tous les médias, ils mettent des trucs dans la tête des gens.
Et tu vois le système dans lequel on vit, où on met tout le temps en avant l'économie. C'est l'économie qui est la source de tout, comme si le fait d'avoir du fric, c'est ça qui gérait tout. Mais aussi, ça peut être bien d'être heureux, tu vois. Et on sait très bien que l'argent fait pas le bonheur, quoi. Et qu'il y a plein de choses qui sont assez vicelardes. C'est qu'on nous, tu vois, les journaux télévisés ou quoi, mettent toujours en avant les chiffres de la bourse. Et c'est toujours ces choses-là qui sont mis en avant. Pourquoi on met pas en avant les bonnes actions, les gens qui font des œuvres sociales ou tu vois. Mais non, c'est l'économie qui est mise en avant, c'est le fric qui gère tout. parce que justement, c'est le fric qui gère tout. Quoi, tu vois.
Et est-ce qu'on peut se dire que du coup, le problème, c'est quand même cette histoire de capitalisme où découle tout ce mépris de classe, ce patriarcat, cette course à tout. On est quand même là-dedans.
Le poison, c'est ça. Hein.
Le poison, c'est ça. Et en vrai, c'est hyper compliqué de s'en défaire. C'est surtout ça, c'est ce que tu disais. C'est hyper vicieux. C'est le téléphone portable, c'est ton accès à Internet. C'est qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on se parle encore ? Est-ce qu'on se regarde dans les yeux ? Est-ce qu'on se rencontre ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la lutte. Et ben en vrai, comment on se rencontre dans la rue ? Comment on boit un café ? Ça n'existe plus. Ça a été, comme tu dis, hyper sinueux. Ça arrivait tout doucement. Et puis maintenant, on ne peut plus s'en défaire. Ouais. Et les gens savent plus se rencontrer, ils sont obligés d'aller sur des applications.
Ouais, c'est, tu vois, les enfants, les jeunes aujourd'hui, les yeux collés à l'écran.
Et on met encore en exergue cette chose-là. Moi, j'ai aussi des enfants qui ont des 14-15 ans. Leur truc, c'est de regarder ces sortes d'influenceurs qui font des vues, qui touchent des trucs, qui sont sponsorisés et qui sont... Et tout est comme ça. Et même moi, en tant que père, et ben c'est difficile de leur faire sortir de ça. Parce que si tu les sors de ça, à quelque part, tu les mets de côté par rapport à leurs copains et à toute cette société. Ouais. C'est hyper dur, c'est hyper sinueux, c'est hyper vicelard.
Ouais.
Donc rencontrez-vous, je vous dis, allez dans des associations, faites des choses ensemble, même le sport, je sais pas moi, de la radio comme nous.
Des émissions de radio,
des choses simples, du jardinage, du nettoyage, comme il peut se passer à Adi, du nettoyage de bord de drôme, quelque chose qui nous rassemble. Qui n'est pas quantifiable soit par quelque part, pas par de l'argent, mais par un but bien commun, du bien commun.
C'est clair. Bon, ben voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous dire au mois prochain.
On sera l'année prochaine.
À l'année prochaine et au mois prochain.
Ouais.
On va vous balancer un dernier morceau. Toujours de bonbons vaudous.
Génial.
Ouais, moi, je les aime beaucoup.
De la joie.
Et là, ça s'appelle Aphrodisiaque. Écoutez les paroles. Il y a des choses intéressantes aussi dans ce qu'ils disent. Et puis, on se revoit dans un mois.
Ouais. Grave. Et puis, oui, toujours pareil. Hein, vous pouvez aller sur le site de Radio Diwa, de RDWA sur Internet. Vous pouvez nous retrouver en podcast. Voilà, si vous voulez nous réécouter, En tout cas, on est retrouvables ici. Je dirais pas merci à Radio Diwa, mais en tout cas, voilà, on a cette opportunité de pouvoir vous parler. À vous, nous, on ne vous connaît pas, mais en tout cas, on se donne cette possibilité d'essayer de vous parler, d'avoir une parole autonome. Et voilà, intéressez-vous à la radio parce que c'est un beau projet, c'est un beau média. Ici, il n'est pas subventionné, donc vous pouvez venir, vous pouvez faire comme nous, si tu as des idées, tu viens et puis tu peux en parler.
Allez, ciao.
Bonne nuit.
Ciao.
Combien d'océans traversés? As-tu tué, as-tu pillé? T'es si bourbon ou l'arrivée? Aphrodisiaque.
possible.
Nous laissons les portes ouvertes et l'orage y entre. Nous faisons des petits paquets, des petits bouquets, des gestes tendres. Nos collections de noix, de caillasses et de peaux de serpent s'alignent sur le bord du nid. Nous levons nos verres, nous célébrons, nous nous épuisons en cérémonie. Fier fils de Bougnou, première, deuxième génération. Le temps que ça prend pour aimer cet homme, fier, troisième, quatrième génération. Fier, fier fils de Bougnou, le temps que ça prend pour aimer cet homme. Cinquième, sixième génération, le temps que ça prend de s'aimer vraiment.